Depuis quelque temps déjà, nous accueillons le livre de l'Apocalypse de Saint Jean, qui, à l'aube d'une nouvelle année liturgique, est toujours proposé à notre lecture et à notre réflexion. Ayant eu l'occasion de croiser tel ou tel d'entre vous, ils m'ont fait part de leurs difficultés à saisir, à comprendre et même tout simplement à lire ce livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Il y a des années, j'avais donné un cours très modeste en cours du soir à la fin de mes études sur ce livre. Et pourquoi l'avoir choisi? Parce que on le laisse très souvent de côté pour des raisons diverses. Soit on ne comprend pas, soit le langage est trop difficile, soit c'est un livre qui nous fait peur, ou alors tout simplement nous n'y croyons pas parce que c'est un langage imagé. Pourtant, il faut bien s'y mettre un jour ou l'autre et ne pas ignorer ainsi une partie importante des Saintes Écritures. Il est à remarquer qu'à chaque période de crise, l'Apocalypse a eu un certain regain d'intérêt. Il faut se poser la question pourquoi? Tout simplement parce que c'est le grand livre de l'espérance, avec un E majuscule. Et nous aurons l'occasion d'en reparler. Mes intentions sont modestes pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on n'a jamais fini de lire la parole de Dieu et que je n'ai pas non plus la prétention de faire une étude exégétique à proprement parler. Mon but est tout simplement de vous aider, si cela est possible, à le lire, à faire une lecture plutôt spirituelle du livre et d'essayer de comprendre ce qu'il nous raconte, de comprendre d'abord avec notre cœur et de dégager le message de ce livre admirable. De toute façon, les questions surgiront au fur et à mesure de la lecture et nous ne pourrons pas avoir réponse à tout, loin de là, car je le reconnais, les difficultés sont nombreuses. Je ne suis pas un devin, je me suis servi durant mes études des livres d'un exégète bien connu, du père André Feuillet, même si d'autres études ont été faites, bien entendu, pour mener à bien cette modeste réflexion qui, je l'espère, vous aidera et surtout vous donnera confiance pour aborder le livre de l'Apocalypse. Avant donc de commencer la lecture de ce livre, je débuterai ce premier volet de cette causerie par des considérations générales que je divise en trois sections. La première, intitulée « L'auteur de l'Apocalypse et la date de sa composition ». Deuxième section, l'interprétation d'ensemble, et troisième section, la doctrine du livre de l'Apocalypse. Commençons pour cette première causerie par l'auteur de l'Apocalypse et la date de composition de ce livre. Alors personnellement, je n'ai jamais été du genre à me poser beaucoup de questions sur les auteurs en général dans l'Écriture sainte. Pourquoi? Tout simplement Parce que lorsque j'aborde un texte de l'Écriture, j'essaie de le lire dans un regard de foi avant tout. Et la foi me dit et me fait adhérer au fait que c'est d'abord et avant tout l'Esprit Saint qui en est l'auteur. Et alors, en un deuxième temps, peu importe de savoir si l'écrivain se nomme Pierre, Paul, Jacques, Jean, je dirais que cela, à la limite, pour ma part, m'importe peu. Ce que je sais, c'est que l'ensemble de l'Écriture sainte a été inspiré par l'Esprit Saint, autrement dit par Dieu lui-même. Néanmoins, cela ne doit pas nous empêcher de nous poser la question de savoir qui a écrit l'Apocalypse, mais je tenais à vous dire cela car je crois que c'est le plus important. L'Esprit Saint est celui qui a écrit, inspiré les Saintes Écritures. On pourrait donc croire le problème de l'auteur résolu par le livre lui-même, car le bénéficiaire des visions se nomme Jean, Saint Jean, l'évangéliste. Qui est ce personnage? Est-ce l'apôtre ou un autre Jean? Est-ce un anonyme qui s'est caché sous le nom du fils de Zébédée, selon un procédé courant dans l'apocalyptique. En fait, nous nous trouvons là devant une question sans doute parmi les plus difficiles à résoudre. La très grande majorité des commentateurs s'accordent à reconnaître que c'est l'apôtre Saint Jean en personne qui est le rédacteur de ce livre. De toute évidence, l'auteur est un chrétien d'origine juive et palestinienne. Et puisqu'il se nomme Jean, il ne peut être que l'apôtre Saint Jean, car pour la fin du 1er siècle, l'histoire ne connaît aucun autre personnage éminent des églises d'Asie capable de parler avec une telle autorité. À cela s'ajoutent les nombreuses ressemblances de vocabulaire, de grammaire, de style et de doctrine avec le quatrième évangile. Cet évangile et les épîtres dites joanniques, c'est-à-dire écrites par Saint Jean, même si elles ont des différences incontestables, on y découvre entre ces divers écrits des ressemblances singulières, soit au point de vue de la langue, vocabulaire et grammaire, soit au point de vue de la doctrine, soit au point de vue de la mentalité que trahissent ces écrits. Par exemple, le caractère dramatique, le goût pour le symbolisme et l'allégorie, la mystique des nombres, etc., etc. Certains exégètes ont estimé que l'Apocalypse pourrait être de l'apôtre Jean sans que l'Évangile le soit. Ce n'est pas d'hier que l'on soulève des objections contre la thèse traditionnelle. Que fait-on valoir en définitive? D'abord que l'auteur ne revendique sa qualité d'apôtre alors qu'il se prévaut plusieurs fois de celle de prophète. De plus, ajoutent certains commentateurs, l'apôtre Saint Jean a dû être martyrisé en 44 ou entre 62 et 70 après Jésus-Christ. Il ne peut donc avoir écrit l'Apocalypse. Au point de vue doctrinal, l'Évangile se caractérise par l'actualisation de la vie éternelle et le recul considérable des perspectives eschatologiques, je veux dire des perspectives des fins dernières. D'ailleurs, toute l'imagerie apocalyptique est laissée de côté. La venue du Fils de l'homme sur les nuées, escorté par les anges, phénomène cosmique effrayant, sonnerie de trompettes, etc. Il est clair au contraire que les tableaux eschatologiques les plus colorés constituent la plus grande partie de l'Apocalypse. Plusieurs mots clés de l'Évangile et des lettres, comme par exemple lumière, ténèbres, amour, vérité, sont absents ou rares dans l'Apocalypse. Et si de part et d'autre, le Christ est appelé Logos, c'est-à-dire la parole, il y a loin du Logos cosmique de l'Évangile, au Logos vengeur, armé d'un glaive de l'Apocalypse. L'Apocalypse décrit donc le monde renouvelé de la consommation en recourant à toute une imagerie empruntée au judaïsme. L'évangéliste, c'est beaucoup plus spirituel. À ses yeux, le monde définitif est tout simplement la maison de Dieu notre Père. Nous pourrions donc continuer encore ainsi pendant longtemps. Au demeurant, le problème de l'auteur de l'Apocalypse est étranger au domaine de la foi. Il peut donc être discuté en toute liberté, même par un croyant. Cependant, il faut avouer que la première impression que laisse le livre incline très fortement à penser qu'il est d'une autre main que l'Évangile. Le fossé néanmoins tend à se combler. Le mysticisme et le Dieu d'amour du quatrième Évangile paraissent être aux antipodes du Dieu terrible de l'eschatologie juive de l'Apocalypse. Mais le Dieu de l'Apocalypse n'ignore pas l'amour et la tendresse. Au reste, le mysticisme n'est pas totalement absent de l'Apocalypse. Pour ma part, et je conclurai ainsi ce premier entretien, et à la suite de bien des commentateurs, je crois qu'il ne faut pas opposer le quatrième évangile est le livre de l'Apocalypse, bien au contraire. Je crois qu'ils se complètent mutuellement et ne sont pas exclusifs l'un de l'autre. Contrairement à ce qu'on dit souvent, l'affirmation fondamentale de l'Apocalypse n'est pas que la parousie, c'est-à-dire la fin du monde, est imminente, mais plutôt que le Christ ressuscité et glorieux, qui doit se manifester lors de la parousie, est déjà présent dans son Église, qu'il protège, qu'il préside et présidera en maître souverain, comme il le fait de l'histoire humaine tout entière. Aussi l'Église n'a-t-elle rien à craindre de ses ennemis les plus farouches. Je poursuivrai dans une deuxième réflexion ces notes préliminaires qui pourra vous aider à ne pas avoir peur d'aborder le livre de l'Apocalypse.